Les cours du Collège de France, Histoire du monde indien, Gérard Fussmann.
Mesdames et messieurs, si vous voulez bien, nous allons continuer ce cours sur le bilan des recherches sur l'histoire ancienne de l'Inde. Et autant les choses on peut changer sur la première partie du premier millénaire avant notre ère, puisque nous n'avons pas de documents nouveaux et que malheureusement, sauf fouilles développées en Inde, nous n'en aurons guère, puisque nous sommes en Inde, en tout cas, avant l'époque de l'écriture, en tout cas avant l'époque de l'écriture, de la fixation par écrit des langues indo-aryennes. Autant cela change à partir de la moitié du premier millénaire avant notre ère, et d'une façon qui pose plus d'interrogations qu'elle n'apporte de solutions, c'est à propos de la date du Bouddha. Et puisque l'on parle du Bouddha et que vous êtes nombreux, je vous rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas noté et ceux que ça intéresse quand même, que jeudi, je fais une conférence à Guimet à midi sur les origines de l'art du Gandhara. Et que le 8 juin, je ferai une visite de l'exposition Gandhara au musée, que je n'ai pas encore vue, malheureusement. Mais ça, c'est réservé aux membres de la CECHAC. Mais s'il y a ici des membres de la CECHAC qui ne sont pas encore inscrits, qu'ils le fassent rapidement, parce que c'est le nombre de gens est limité. Alors, l'importance de la date du Bouddha n'est pas une importance religieuse. C'est du point de vue religieux, que le Bouddha soit né et qu'il soit mort 100 ans ou 200 ans plus tôt, ou 100 ans ou 200 ans après, ça n'a strictement aucune espèce d'importance. Ça, la meilleure preuve, c'est que les bouddhistes de par le monde ont comme date de ce qu'on appelle le nirvana du Bouddha, c'est-à-dire sa disparition du monde des mortels, des dates très différentes, que les Chinois, les Japonais, les Indiens, les Tibétains et les Sri Lankais n'ont pas adopté la même date. Il y a une tentative d'unification par le Congrès bouddhiste mondial, mais comme celui-ci ne représente pas grand-chose, l'unification ne va pas très loin. Mais encore une fois, du point de vue de la foi, ça n'a strictement aucune importance. Et du point de vue des bouddhistes, ce que les savants occidentaux qui ne sont pas bouddhistes peuvent raconter, ça n'a strictement aucune importance non plus. De même que si un savant voulait prouver que Jésus-Christ est né non pas en zéro avant notre ère, mais 20 ans plus tard ou 50 ans avant, les catholiques et les protestants s'en ficheraient complètement. Vous savez que les juifs continuent à dater d'une ère de la création du monde dont ils savent parfaitement qu'elle ne correspond pas à la création du monde. Donc le problème de la date du Bouddha n'est pas du tout un problème religieux. C'est un problème d'histoire indienne, car c'est la première date apparemment fixe de l'histoire indienne, et surtout on a un corpus de documents qui permettent d'avoir une vue de l'Inde du Nord à cette époque datée, puisqu'il s'agit de tous les documents relatifs à la vie du Bouddha et à ses voyages en Inde entre sa naissance, donc dans le nord de l'Inde. Et ses voyages plus tard. C'est un corpus de textes qui est très bien délimité, qui existe en plusieurs langues, avec des variantes importantes. La variante qui, dans l'histoire, dans la plupart des histoires qui sont d'origine britannique, la variante utilisée a été le pali, puisque systématiquement Les Britanniques privilégient le pali, qu'ils ont été les premiers à éditer. Vous avez la Polytech Society à Londres qui est très importante. Mais il y avait des versions sanscrites, la plupart perdues. Certaines tardives, comme le Lalita Vistara, est relativement peu utilisable, mais d'autres plus anciennes qui sont conservées en version tibétaine et chinoise. Et si vous voulez voir l'effet, ce qui se passe quand on compare toutes les versions d'un même texte relatif à la vie du Bouddha, toutes les versions anciennes, la version en pali, la version en chinois et la version en tibétain, et ce qui peut rester des versions sanscrites. Je vous renvoie à la vie du Bouddha, aux études sur la biographie du Bouddha, sur la biographie du Bouddha d'André Barrault, qui sont parus en 4 volumes à l'École française d'Extrême-Orient, et vous aurez la comparaison de tous les textes relatifs à la vie du Bouddha. Et celle-ci se déroule dans un endroit relativement restreint de l'Inde, puisque le Bouddha est né au pied de l'Himalaya. On dit qu'il est né dans les montagnes du Népal. Si vous allez un jour à Kapilavastu, vous verrez que c'est la plaine indienne complètement plate et qu'on voit aucune montagne à l'horizon. Et puis, il a circulé essentiellement dans le nord Bihar, dans le Bihar, c'est-à-dire au sud de Patna, la région de Gaya, Varanasi et Sarnath, c'est-à-dire l'est de l'Uttar Pradesh. En gros, cette région, donc pour laquelle les documents devraient nous donner non seulement des renseignements précis du point de vue géographique, des renseignements précis du point de vue historique, puisque le Bouddha a rencontré un certain nombre de rois et a traversé un certain nombre de royaumes, et également du point de vue chronologique, puisque l'on sait que, ou l'on croit que le Bouddha a vécu 80 ans, et donc si l'on sait la date de sa disparition, on sait également la date de sa naissance, et on a comme ça une période de 80 ans avec des détails très précis sur l'histoire de l'Inde. Un certain nombre de savants, et en tout dernier lieu M. André Barrault, avaient montré que les divergences entre les vies du Bouddha faisaient qu'il était impossible qu'aucune vie du Bouddha ait été fixée, même oralement, avant disons une cinquantaine d'années avant Ashoka et probablement avant Ashoka lui-même, c'est-à-dire avant 300. Ceci se voit parce que nous avons des récits assez complets de trois événements ou quatre événements importants dans la vie du bouddhisme, les quatre premiers conciles, avec un concile en particulier qui a abouti à une scission très grave entre deux groupes. Un groupe très rigoriste qui allait donner les Théravadines de Pali, entre autres, de Ceylan, entre autres, et puis un groupe un peu moins rigoriste, mais majoritaire, les Mahasamgika. Et quand on compare les récits, on voit que ce sont justement les récits appartenant à ces deux branches du bouddhisme ancien qui divergent, et donc la divergence doit être postérieure au concile de Vaishali qui les a séparés. Alors, si les conciles vous intéressent, vous pouvez voir dans la motte Histoire du bouddhisme indien ce qui s'est passé, et dans le livre tout à fait remarquable d'André Barrault sur les conciles bouddhiques anciens. C'est une première chose. Donc, nous avons des textes qui ne sont pas contemporains de la vie du Bouddha et qui sont des textes, on ne peut pas dire sectaires, parce que la séparation des différentes écoles du bouddhisme n'a rien d'une séparation sectaire. Ce sont des séparations sur des points d'organisation, des points d'ordination, des points de discipline bouddhique. Et en fait, disons que ce sont des traditions orales qui divergent et des traditions patriarcales, des traditions d'ordination qui divergent, mais pas des traditions philosophiques. Et donc, première chose, nous n'avons pas de récit qui remonte oralement avant l'année 300, avant notre ère. Deuxième chose, ils ont été fixés par écrit probablement très tard, probablement... les premiers fixés par écrit ont sans doute été fixés à Sri Lanka, en Pali, aux alentours de notre ère, la fixation d'un des textes qui est aussi utilisé, le recueil des vies antérieures du Bouddha, le Jataka, n'est pas faite avant le 5e siècle de notre ère, c'est-à-dire 1000 ans après la date supposée de l'existence du Bouddha. Donc nous avons des textes qui ne sont pas contemporains et de la vie du Bouddha. Mais il y a des traditions, et en particulier à Ceylan, où, par extraordinaire, vous avez pour l'Inde, disons, une espèce d'histoire ancienne qui sont les chroniques des monastères avec la liste des patriarches. Et dans cette chronique des monastères, vous avez une histoire du bouddhisme de la naissance du Bouddha jusqu'à son introduction en Inde par un des fils ou un des frères, selon le cas, du roi Ashoka vers 250 ou un peu avant notre ère, avant notre ère. Et ceci a beaucoup frappé les Occidentaux parce que c'est une liste détaillée avec des chiffres, et les bouddhistes de Ceylan, à partir de ça, depuis longtemps, avaient constitué une ère bouddhique commençant au nirvana du Bouddha, à sa disparition, de 543 avant notre ère, qui est l'ère longue, ce qu'on appelle la chronologie longue, et qui était assez intéressante parce que les Jains, de leur côté, ont une chronologie calculée a posteriori de leur, du dernier des Jinas, du dernier des fondateurs du Jainisme, Mahavira, qui serait mort selon une tradition vers 528. Or, on sait que le Bouddha et le Mahavira ont été à peu près contemporains, ou se sont en tout cas été contemporains et à peu près dans la même région. Et vous voyez que 543 et 528, ça va assez bien. En plus, ce sont pas des, enfin, le calcul, on y arrive par des chiffres qui ne sont pas des chiffres ronds. Et évidemment, ça faisait très bien. On s'est très vite aperçu que la chronologie de Ceylan n'était pas possible. La chronologie Pali n'était pas possible, tout simplement parce que dans les éléments de calcul de cette chronologie, tels qu'ils nous sont donnés par le Mahavamsa, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles, et en particulier des durées de vie des patriarches qui excèdent très largement la durée de vie normale d'un religieux bouddhique. Et puis, il y a d'autres synchronismes avec Ashoka qui ne fonctionnaient pas. On a donc adopté ce qu'on appelle la chronologie longue corrigée, qui est adoptée, en Europe et par quelques savants américains, qui ne bouge pas beaucoup. Alors, à quelques années près, je ne vous dis pas comment le calcul est fait parce que c'est plutôt ennuyeux, mais à quelques années près, ça vous donne une mort du Bouddha entre 483 ou 474, c'est-à-dire environ 60 ans plus tôt que la date officielle de l'Église bouddhique cingalaise. Et la même correction fait mourir de Mahavira en 467-468. On est donc tout à fait dans quelque chose de tout à fait vraisemblable, et c'est ce qui a été adopté par la plupart des savants européens. Dans son grand livre sur l'histoire du bouddhisme, l'histoire du bouddhisme par Étienne Lamothe, qui s'arrête en 78 de notre ère, Lamothe fait quand même remarquer que toutes ces dates supposent que seule la tradition de Sri Lanka ait raison, mais que les écoles bouddhiques du Nord, qui sont des écoles bouddhiques, disons, du Magadha, du Madhya Desha, celles qui sont restées ici, dans cette région-là, avaient une autre tradition qui est très bien attestée et qui dit simplement que le Bouddha, le nirvana du Bouddha, a eu lieu 100 ans avant le couronnement d'Ashoka. Le couronnement d'Ashoka varie selon, disons qu'il est aux alentours de 470, à quelques années près. 100 ans avant 270, ça fait 370. Et ça vous donne une différence d'un siècle par rapport à la chronologie longue corrigée, celle par exemple de Filioza, qui a beaucoup travaillé dessus et que vous trouverez dans l'Inde classique. Et ça vous donne une différence de 160 ans avec la chronologie de Ceylan. Mais 100 est un chiffre rond. Et donc Lamothe disait, moi je ne sais pas comment décider. Mais comme la chronologie d'une part est quelque chose de très fastidieux, je ne vous souhaite pas de lire un article sur la chronologie, quel qu'il soit, que ce soit celle du Bouddha, d'Ashoka ou de Kanishka, c'est très très ennuyeux, hein, les articles sur la chronologie. On avait une date à peu près correcte, fixée par des textes qui paraissaient extrêmement historiques, et, qui paraissaient prolonger une mémoire et une mémoire écrite des bouddhistes de Ceylan, qui en plus passer pour ceux qui avaient le mieux gardé l'esprit du bouddhisme ancien. Et donc, à peu près tout le monde s'adoptait pour 543, s'ils étaient à Sri Lanka, s'ils dépendaient de Sri Lanka, ou pour les alentours de 480, s'ils étaient allemands ou français. Cette vie du Bouddha était très importante parce que, elle, une fois cette date fixée, on avait donc pour le VIe siècle de notre ère, pour les années, disons, 600-500 environ, puisqu'il est censé naître 80 ans, une description de l'Inde où il y avait des groupes tribaux. En particulier dans le nord du Bihar et au Népal, c'est en particulier le groupe des ancêtres du Bouddha, les Shakya, mais il y en a d'autres, comme les Mala et les Vrindji, qui étaient... Je vais essayer d'agrandir l'endroit. Dans ma jeunesse, ce qui permettait d'allonger le cours, c'était que les diapositives se coinçaient, mais là, c'est autre chose. Donc, la région où le Bouddha est né, c'est ici, au nord de Gorakhpur, mais dans la plaine, juste à la frontière du Népal. Le lieu de la naissance est au Népal, et le lieu de, disons, d'habitation, Kapilavastu, est très probablement en Inde du Nord, bien que le Népal et l'Inde se disputent à ce sujet. Et donc, c'est dans la région de Gorakhpur et de Lumbini et de Kapilavastu. C'était ce qu'on appelle un groupe, ce que j'appelle un groupe tribal, ce qu'on appelle en sanskrit un gana, le shakya, et vous aviez ici à l'est également d'autres groupes tribaux qui sont les gana du Vidéa, c'est-à-dire les Mala et les Vrindji, et ensuite vous avez aussi les Lichavi qui étaient autour de Vaishali, c'est-à-dire juste de l'autre côté du Gange, au nord de Patna, si vous avez visité cet endroit-là. Alors, ces Ghana, ça a beaucoup fait fantasmer les Indiens dans les années de post-indépendance et pré-indépendance, comme ce sont des assemblées d'égaux. Ça a été, un certain nombre de collègues ont traduit ça par les républiques et ont voulu montrer qu'au VIe siècle de notre ère, quand Athènes inventait la démocratie, les Indiens la connaissaient aussi puisqu'elle était attestée par les textes du Bouddha. Ce sont en fait, les textes le montraient bien, des aristocraties guerrières avec où tous les membres du conseil s'appellent des rajas et où un seul est un primus inter pares, apparemment héréditaire. Donc ça se transforme facilement en royauté. Et c'est ce qui est arrivé avec un certain nombre de royautés connues du temps du Bouddha. Au Kosala, c'est-à-dire dans la région d'Ayodhya, on trouve ça, c'est par ici, oui. Dans la région d'Ayodhya, ici, vous aviez un roi qui s'appelait Prasenajit. Et puis, au Magadha, c'est-à-dire, en gros, le nord Bihar, entre Patna et Gaya, mais ayant déjà annexé cette partie du Bengale occidental qu'on appelle Langa, conquérant bientôt la ville de Varanasi, qui est ici, donc constituant déjà un grand royaume. Vous avez le Magadha, avec deux rois, Bimbisara et Ajatashatru, sur lesquels les textes et les sculptures, d'ailleurs, sont riches en détails. Et puis au sud, on vous parle de l'Avanti d'Ujjayini, où le Bouddha ne s'est jamais rendu, dans cette région-là, mais qui a joué un rôle très important, puisqu'il semble que les textes palis soient en fait des textes de l'Avanti, traduit de la Magadhi originale et ensuite transféré à Ceylan. Bon, tout ceci paraît très vraisemblable, bien qu'aucun de ces souverains ne soit nommé dans les Puranas. Et en plus, ces textes, en particulier les textes pali, nous décrivent une série de grandes cités où résident les rois, et le Bouddha s'établit dans la banlieue, soit Rajgir, la première capitale du Magadha, pas très loin de Gaya, Rajgir est ici, soit Varanasi, puisque si vous allez en Inde, vous verrez à Sarnath l'ermitage où le Bouddha a, comme disent les Britanniques, délivré son premier sermon, c'est-à-dire a fait son premier prêche, ou près d'Ayodhya, ou les ruines, ou Vaishali, dont vous pouvez encore voir les ruines. On parle aussi beaucoup de commerce, mais il n'y a pas de traces de deux textes qui vont devenir très importants, c'est-à-dire l'épopée, le Mahabharata et le Ramayana. Et il n'y a pas non plus... Et malheureusement, la plupart des noms propres n'apparaissent pas dans ce qui est, du point de vue hindou, une histoire, c'est-à-dire les textes du Purana qui sont des textes tardifs, 7e siècle. Alors, ça vous donne la carte que vous avez ici, que vous avez déjà vue, qui est l'Inde au temps du Bouddha et... qui vous donne des choses, ce que je viens de vous dire, le Kosala, le Vidéa, l'Anga, le Magadha, le Vatsa et l'Avanti. Puis vous voyez réapparaître sur cette carte des noms comme Kuru et des noms comme Panchala, qui n'apparaissent, eux, jamais dans les textes bouddhiques. Ce sont des textes, ce sont des noms qui ont été repris de la période antérieure et ajouté là pour compléter notre connaissance de l'Inde qui pourtant qui autrement aurait été restreinte à, disons, son quart nord-est. Les Kuru et Panchala n'apparaissent dans aucune source bouddhique, autant que je sache, et on suppose que les Kuru ont continué à exister parce que un siècle plus tard, ou un siècle et demi plus tard, selon la chronologie adoptée, on en retrouve les descendants, en particulier le dénommé Poros, avec ce problème que Poros n'est pas un Kaurava, mais un Paurava. On reviendra là-dessus si l'on parle d'Alexandre. Et voilà donc où on en était. On arrivait à avoir une description de l'Inde très très précise, avec la description des castes, la description du commerce, la description des routes de commerce, la description des villes, illustrée par les fouilles archéologiques, datées, disons, de la période comment dire, 483 moins 80, c'est-à-dire 560, 483, ce qui pour l'Inde est une précision formidable. Et puis, notre collègue Bechert de Göttingen, mort il y a quelques années, en 86, a repris la phrase de Labotte, disant qu'après tout, rien ne permettait de choisir entre la chronologie de Sri Lanka, dont on avait démontré qu'elle était fausse, qu'on avait corrigée, mais si on avait corrigé, c'est qu'elle était fausse, et donc si elle est fausse, c'est que la tradition, au moins, a eu quelques hoquets, quelques erreurs, et la chronologie du nord de l'Inde, qui avait ceci d'intéressant, c'est que c'était évidemment un chiffre rond, beaucoup d'années, 100 ans, c'est beaucoup d'années, mais ça signifiait que les bouddhistes du nord de l'Inde n'avaient aucune idée de l'époque où le Bouddha était mort. Vous savez simplement que c'était avant Ashoka, et ça correspond assez bien avec ce que M. Barrault avait montré, c'est-à-dire que les traditions relatives à la vie du Bouddha dataient probablement des années strictement immédiatement antérieures avant le règne d'Ashoka. Et que, de ce point de vue-là, donc, si les bouddhistes de l'Inde du Nord, qui étaient sur place et qui fréquentaient ou résidaient dans les lieux visités par le Bouddha, dans les lieux où il était né, dans les lieux où il avait atteint le nirvana, si ceux-ci n'avaient aucune idée précise de sa naissance, la date de sa naissance et la date de sa mort, c'est probablement, il n'y avait aucune raison que les gens de Sri Lanka aient une idée plus précise. Donc dans les deux sens, on avait aucune chronologie n'était fiable. Toutes les chronologies avaient été faites a posteriori, par des reconstructions a posteriori, comme cela se fait très souvent dans les chronologies, et qu'il fallait s'appuyer sur la réalité archéologique et sur la réalité historique pour reconstituer une date probable qui ne serait aucune des dates données par la tradition. En 86, donc, Bechert proposa que l'on rabaisse la date du nirvana, la date de la chronologie courte, longue, corrigée, c'est-à-dire 483, de beaucoup, et aux alentours de 400 et 420. Et il n'a pas eu besoin de signaler que la date du nirvana n'impliquait pas la date de la naissance du Bouddha, parce que 80 ans est un chiffre rond de gens très vieux. Vous avez en Inde, et en particulier au Népal, une cérémonie pour les 77 ans d'un individu qui considère que cet individu est un individu absolument exceptionnel. Donc 80 ans, c'est un peu au-delà de 77 ans. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être de vivre jusqu'à 80 ans au 5e siècle avant notre ère, alors que la durée de vie moyenne était aux alentours de 30-40 ans. Cet article vient d'être traduit en Inde, vient d'être traduit en anglais et en Inde, et les savants indiens, jusqu'à présent, n'y ont pas fait attention. Donc le débat est uniquement franco-allemand-anglais. Et là, c'est comme nous le voyons tout au cours de cette série de leçons, le divorce entre l'histoire indienne telle que l'écrivent les Occidentaux et l'histoire indienne telle qu'ils l'écrivent est énorme. Pour une raison simple, c'est que l'esprit critique n'est pas encore dominant en Inde. Ce qu'a fait Béchert, c'est d'aller plus loin encore, et en 88, il a convoqué à Göttingen, où il enseignait, un énorme colloque publié en trois volumes en 89. Et les articles sont dans la langue des auteurs, c'est-à-dire qu'il y a des articles en anglais, en allemand et en français. Et ce colloque ne s'intéresse pas simplement à la date réelle du Bouddha, c'est l'essentiel du premier volume, mais aussi à la manière dont toutes les différentes ères bouddhiques ont été fixées en Chine, au Tibet, au Japon, partout où vous avez des bouddhistes. C'est un volume sur l'ensemble de la chronologie bouddhique. Il y a un certain nombre d'articles très importants. C'est un volume vraiment de très très haut niveau. C'est un des rares colloques que je connaisse qui a été si bien préparé, c'est-à-dire que Béchert, qui avait beaucoup d'autorité déjà, a demandé à tous les spécialistes mondiaux, qui est en fait européens, de la question de se réunir. Ils sont venus et il leur a donné un sujet à traiter. Ce qui fait que les articles peuvent se répondre, mais surtout ils se complètent. Et donc vous n'avez pas des choses dispersées. En fait, vous avez, quand vous avez lu tous les articles de ces trois volumes, vous avez une vue absolument complète des choses, même si vous avez des désaccords entre certains auteurs. Et il y a deux articles tout à fait remarquables, à part celui de Béchert. Vous avez un article du grand savant berlinois décédé maintenant, il y a quelques années lui aussi, Hertel, qui a commencé par éditer des textes bouddhiques, mais qui a aussi fouillé pendant des années aux alentours de Mathura, dans le village de Sonk, et qui a publié la meilleure publication de fouilles et la plus complète sur l'Inde du Nord entre le 2e siècle avant notre ère ou le 3e siècle avant notre ère et puis le 5e siècle avant notre ère, puisque la stratification de Sonk couvre cette période. Et Hertel reprend tous les rapports archéologiques, qui était donc un spécialiste d'archéologie aussi, et de textes aussi, un très bon bouddhisant, reprend tous les articles d'archéologie, toutes les publications de fouilles relatives aux grands sites visités par le Bouddha, et dont nous n'avons aucune raison de douter qu'il ne les ait pas visités, de même que nous n'avons aucune raison de douter que le Bouddha ait existé. Ces sites, c'est Kapilavastu, le lieu de sa naissance, c'est à côté de Gorakhpur, Kushinagar, le lieu où il a disparu, c'est Gaya, au sud de Patna, où il a obtenu la Bodhi, c'est Varanasi Sarnath, où il a exposé sa doctrine pour la première fois à ses anciens compagnons, et c'est Shravasti, où il a été accueilli et où Anathapindatta a donné l'argent pour la fondation du premier millénaire. Et Hertel montre que dans ces fouilles, il n'y a strictement aucun indice qui permette de dater les couches les plus anciennes avant 350 de notre ère. C'est alors que théoriquement, si l'on en croit les deux chronologies longues, la corrigée et la pas corrigée, les sites devraient être antérieurs à 500. Et que par ailleurs, même après 350, les cités qui sont décrites dans les textes relatifs à la vie du bouddhique ne ressemblent en rien à ce que les archéologues ont trouvé, et en particulier au niveau des fortifications. Il n'y a quasiment aucune fortification. Alors, si vous regardez les reliefs bouddhiques, soit à Bharut, soit un peu partout, par exemple dans le Gandhara, vous verrez que des cités avec d'imposantes fortifications, des tours carrées, des flèches partout, de ceci, aucune trace avant 350 et même après. L'article le plus intéressant, c'est quand même celui d'un, non pas d'un spécialiste du bouddhisme ancien, mais d'un anthropologue spécialiste du bouddhisme contemporain et qui s'appelle Obeye Sekere. Ceylan a donné lieu à, enfin, a donné naissance à un certain nombre de très grands anthropologues du XXe siècle, et Obeye Sekere en est l'un d'entre eux. Alors, Béchert avait besoin d'un type intelligent qui regarde un peu dans le Mahavamsa dans le Sri Lankais, et il a appelé Obeye Sekere, et Obeye Sekere, au colloque de Göttingen, a fait son petit devoir, qui était un pinsum, et il a résumé la situation. Et puis, après le colloque, ça l'a fait réfléchir, il est retourné sur le terrain, et il a donné un article beaucoup plus long, qui est celui qui est publié par Béchert, mais qui n'a pas été discuté dans le colloque, et qui est donc quelque chose d'à part, et quelque chose de très important. Il a lancé, avec ses étudiants singalais, puisqu'il enseignait à Ceylan, une campagne, disons, pour recueillir sur le terrain la mémoire que les bouddhistes singalais avait d'un roi et de deux de ses fils qui s'étaient entretués après sa mort dans des circonstances un peu épouvantables. C'est une légende, enfin, c'est un pan d'histoire du 5e siècle de notre ère, mais qui est important parce qu'il est lié avec la fondation d'un des plus beaux sites bouddhistes de Sri Lanka, c'est-à-dire Sigiriya, et d'un des grands lacs réservoirs de Sri Lanka. Et il y avait autour de de cette fondation et de ces trois personnages, il y avait toute une série de légendes locales. Donc ces étudiants sont allés dans les villages recueillir ces légendes locales qui variaient plus ou moins, mais qui commençaient toujours comme ça. Il y a longtemps, il y avait un roi qui s'appelait un tel. Il avait deux fils qui s'appelaient un tel et un tel. Si vous voulez, je vous donnerai les noms, si ça vous intéresse. Obeye Sekere a regardé ce qu'il y avait dans le Mahavamsa. Alors, le Mahavamsa donnait à peu près ça comme légende, mais avec des chiffres. Il a dit, c'est très, très bien. Et puis, il a tabulé les indications du Mahavamsa. Et il s'est aperçu que tous ces chiffres étaient soit 100, soit 18. Or, la date du Bouddha, selon les sources palies, selon le Mahavamsa, c'est 216 ans avant le couronnement, 218 ans, excusez-moi, avant le couronnement d'Ashoka. Et il était évident, et de l'analyse de ce texte du Mahavamsa, et de sa comparaison avec la mémoire réelle des gens, qu'il y avait une légende sur ces événements et qu'ensuite les moines qui avaient écrit ces annales avaient mis en face de chacun des événements une date reconstituée. Et cette date reconstituée était faite de 100 plus 100 plus 18. C'est-à-dire que ça n'avait pas grand-chose à voir avec la réalité et que le fait qu'on ait un chiffre qui ne soit pas un chiffre rond ne signifie rien. Et que ce chiffre de 18 apparaissait très souvent dans tous les textes sri-lankais. Alors, il donne toute une série de textes et il se trouve, il se trouve que j'ai reçu cette semaine le journal asiatique. Il y a dans le journal asiatique un article de Madame Phyllis Granoff sur la construction de l'espace sacré dans le jainisme médiéval, du jainisme des années, disons, du 10e au 13e siècle. Et il y a une chose très curieuse là-dedans. Je vais essayer de vous le retrouver parce que ça ne doit pas être très, très difficile. Vous me donnez 2 minutes, s'il vous plaît. Enfin, il y a toute une série de souverains qui sont nommés et l'espace entre ces souverains, c'est 18 ou 9, c'est-à-dire 9 fois 2, 18. Si vous voulez regarder, je vous montrerai ça. Y compris des souverains dont nous savons qu'ils sont seuls, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas 18. Donc il semble bien que le nombre 18, comme le nombre 9, soit en fait des nombres traditionnels auxquels aucune source écrite ne renvoie. Il y a un autre nombre traditionnel, c'est 4, qui exprime la totalité, qui peut être multiplié par 4, et ça vous donne les 16 Janapada, les 16 régions du monde qui expriment la totalité du monde. Ça, quand même, les Européens l'avaient vu, mais ni les Indiens ni les Européens n'avaient vu qu'il y avait un autre chiffre aussi traditionnel dans ces chronologies, qui était 18 ou 2 fois 9. Et on aboutit ainsi à une reconstitution de la chronologie singhalaise qui signifie, qui prend la date du parinirvana, qui fixe à 100 après la date du parinirvana, on savait déjà que c'était faux, la date du deuxième concile de Vaishali, et puis qui fixe à 100 plus 18 la date du couronnement d'Ashoka. En d'autres termes, la date de 218 est une date construite. Il n'y a pas à en tirer avantage et il n'y a pas à s'appuyer dessus. Et la date de 100 que donnent les textes dits du Nord, c'est un chiffre rond. Et il faut croire que le parinirvana du Bouddha a eu lieu entre 218 et 100 avant le couronnement d'Ashoka, dont la date est connue, disons, à une dizaine d'années près, selon les chronologies. Si l'on reprend l'article de Hertel et un certain nombre d'autres indices, il semble qu'une date qui serait 500-400 pour la période où a vécu le Bouddha, serait plus correcte que 600-500. C'est-à-dire que les Européens actuellement, c'est-à-dire la dizaine de gens qui en Europe s'intéressent à ça, peut-être avec leurs élèves une vingtaine, pensent désormais que l'époque du Bouddha se fixe et un siècle plus jeune, plus récente que la date ordinairement admise. Le Bouddha est un personnage du 5e siècle. Si un autre de mes maîtres, M. Schlumberger, qui a écrit un article sur la rencontre possible entre les idées bouddhiques et les idées épicuriennes et le fait que le Bouddha est emprunté à Épicure, s'il avait su cela, il aurait été très, très heureux. Mais enfin, l'article est un bel article, mais enfin, il est faux, c'est un autre problème. Mais on arrive quand même au fait que ce que décrit les textes du Bouddha, les textes sur la vie du Bouddha, remontent au 4e siècle, ou au 5e siècle et pas au 6e siècle. on se dit que la réalité géographique telle qu'elle est décrite par ces textes doit être correcte. Elle doit être correcte parce que les villes, on les a retrouvées sans peine, parce qu'il y a une réalité archéologique, parce que des inscriptions mentionnent le nom de ces villes à époque ancienne, et qu'après tout, ça correspond à l'idée que nous faisons du nord-est de l'Inde, du quart nord-est de l'Inde au Ve siècle. Simplement, il faut rajeunir cela de 100 ans. Il faut également retirer tout ce qu'il y a de merveilleux. Ne croyez pas que le Bouddha soit né dans un riche palais avec des dizaines de servantes. Quand vous allez encore aujourd'hui à Kapilavastu, vous dites que vous n'aimeriez pas y passer votre jeunesse ni votre vieillesse. C'est vraiment un endroit tout à fait désolé. Et en plus, c'est un endroit qui a été extrêmement amélioré. Quand vous regardez ce qu'en disent les Britanniques au XIXe siècle, la région de Kapilavastu, non seulement c'était une région de jungle, si vous visitez les bungalows des Britanniques de l'époque, vous avez partout des têtes de rhinocéros, de tigres et d'éléphants. C'était vraiment la région où ils allaient chasser, la région de Gorakhpur. C'est une région extrêmement marécageuse, avec la Godavari qui change de lit toutes les moussons. Et il y avait des nids de moustiques au tel point que les troupes anglaises au XIXe siècle n'ont jamais pu traverser le terrail pour aller attaquer Katmandou parce qu'elles étaient attaquées par les moustiques et le paludisme et toute l'armée britannique, qui était essentiellement indienne d'ailleurs, y restait. Donc c'est vraiment une région épouvantable. C'est là qu'est né le Bouddha. Ça peut expliquer peut-être son dégoût du monde. De même, les autres sites qui sont cités, si l'on en croit les rapports d'Hertel, c'était des bourgades. Donc la reconstruction, c'est une reconstruction qui date, qui a deux raisons. La reconstruction par les sources anciennes sur le bouddhisme. D'une part, le Bouddha, grand personnage, qui avait le choix entre devenir un empereur universel, un chakravartin et un sauveur universel, ne pouvait naître que dans un endroit où pouvait naître un chakravartin, dans une maison très noble, de la dynastie solaire, et s'il avait voulu, il serait devenu un empereur, et pour ça, il ne pouvait pas être né dans une bourgade au pied, dans la plaine la plus pourrie, juste avant l'Himalaya. Donc, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est ce que vous voyez, y compris par exemple, dans les peintures du Moyen-Âge, lorsqu'un peintre illustre une histoire, il l'illustre à partir de détails qu'il a sous les yeux. L'Ancien Testament et le Vieux Testament vus par les peintres du XVe et du XVIe siècle, c'est l'Italie du Nord, c'est la Flandre transposée à Jérusalem. Bien là, c'est la même chose. Et si vous en voulez une démonstration, les textes qui décrivent la vie du Bouddha ont été fixés à l'époque des reliefs du Gandhara. Et vous pouvez être bien sûr que le Bouddha n'est pas né au milieu dans un palais avec des chapiteaux corinthiens et un décor hellénisant. Ce qui ne semble pas non plus... Si les détails matériels semblent magnifiés, ce qui ne semble pas inventé, ce sont les noms des rois, bien qu'on ne les retrouve pas ou peu dans les Puranas. Pour une raison simple, c'est que ce sont à la fois des noms bien indo-ariens, mais qui ne sont pas d'étymologie tout à fait évidente. Il n'y a aucune raison que ces noms aient été inventés. Donc on peut considérer que le souvenir s'est maintenu des grands protecteurs du bouddhisme, même s'il a été rejeté dans le passé d'un siècle. Mais comme c'est un cadre oral qui a été fixé par écrit plusieurs siècles seulement après l'événement, vous avez des risques d'oubli et vous avez des risques de fixation sur certains souverains seulement. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que nous avons la mémoire des souverains qui ont protégé le Bouddha, nous n'avons pas la mémoire des souverains qui ne l'ont pas protégé et qu'il n'est pas allé voir. Et donc, la moitié de l'image, au moins, est vide. Et on sait d'ailleurs que la conversion du nord-est de l'Inde au bouddhisme a été loin, loin d'être entière et qu'il y a toujours eu des hindous. La société, c'est un peu curieux. La société, elle est uniquement, elle est conforme d'une certaine manière aux textes hindous, c'est-à-dire aux textes en langue indo-aryenne, en sanskrit. Mais quand on regarde la situation actuelle, on s'aperçoit que, un peu à la bordure de l'Himalaya, mais surtout dans le sud du Magadha encore et en Nanga, vous avez toute une série de populations qui ne sont pas de langue indo-aryenne, en particulier en Orissa, dans la région de Jharkhand, ce qu'on appelle les tribal people. Ces tribal people apparaissent de temps en temps dans les histoires relatives au Bouddha, sous la forme de chasseurs, par exemple. Il est de même question des gens de très basse caste qui sont hors de la société, les Chandala, mais il n'y a jamais une allusion au fait qu'ils parlent une langue et qu'ils peuvent avoir des coutumes tout à fait différentes de la société hindoue. Le cadre est celui de l'Inde vu par des hindous du 5e siècle où la société est une société faite de gens qui parlent un moyen indien et qui obéissent à des normes de vie qui sont celles des textes sacrés indiens. Et justement, cette norme de vie dont le Bouddha veut les libérer. La description des villes, comme je vous l'ai dit, est très probablement anachronique. Et la description de l'urbanisation accélérée s'applique beaucoup plus, comme l'a dit Hertel, aux années 350 qu'aux années 600. Donc, c'est ce que montre l'archéologie, mais ça vous prouve également que c'est à peu près à cette époque qu'ont été fixées les premières légendes sur la vie du Bouddha, qu'on ne pouvait pas imaginer en dehors du contexte que les gens voyaient, c'est-à-dire celui d'une urbanisation rapide et de la constitution de grandes agglomérations qui entouraient de remparts et de fortifications. À l'intérieur, on ne voit pas très bien comment cela se passe, avec des détails qui emportent l'adhésion et qui d'ailleurs hérissent les hindous, par exemple. Il y a un récit sur la fondation de Kashi, qui est Varanasi, qui fait que Kashi aurait été en fait fondé par Ajatashatru, annexé au Magadha et fortifié par Ajatashatru, alors qu'évidemment, vous savez que les hindous considèrent que c'est un des endroits les plus sacrés, les plus anciens du monde, où Shiva aurait vécu. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a aucune trace de l'épopée. Aucun récit qui rappelle même de loin l'existence du Mahabharata et du Ramayana, alors qu'une partie importante de l'existence du Bouddha s'est passée là où était théoriquement la capitale de Rama, c'est-à-dire Ayodhya. Après tout, le Mahabharata était plus à l'ouest, mais Ayodhya, il était en plein dedans. Rien ne nous indique que Prasenajit était un descendant de Rama. Je crois bien que c'est Prasenajit qui s'appelait. Rien ne nous indique que Prasenajit ait été un descendant de Rama, ce qui aurait dû apparaître, puisque pour un texte bouddhiste, de dire que le roi apparent, le roi descendant de la plus glorieuse dynastie indienne, celle de Rama, rende hommage au Bouddha, c'est pas rien, si on l'avait su. Mais apparemment, ils n'en font jamais mention. Ce qui est plus intéressant, du point de vue de la chronologie, c'est que l'intervalle entre le successeur et assassin de Bimbisara, son fils Ajatashatru, littéralement celui dont les ennemis ne sont pas encore nés, et l'intervalle de l'expédition d'Alexandre qui arrive en Inde vers 328 avant notre ère est extrêmement réduit. Ajatashatru est un personnage intéressant, on ne sait pas dans, à quel point le récit du parricide est fictif ou non. Hein, ça ne nous intéresse pas, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il a eu un roi Bimbisara, que ce roi Bimbisara a transféré probablement sa capitale de Rajgir à côté de Gaya jusqu'à Patna. Pataliputra, qui allait devenir la grande ville du nord de l'Inde, qui, selon Mégasthène, il y avait 700 000 habitants à Pataliputra, Patna, quelques années après, disons vers 300 ou vers 280. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous dit que Ajatashatru, justement, a annexé la région de Varanasi. Donc, sous Ajatashatru se constitue un grand royaume qui couvre tout l'est de l'Inde, une partie du Bengale, ce qu'on appelle le Langa, le Magadham, avec la région des Chakyas, et puis la région de Varanasi. Et c'est l'ébauche de ce qui va être le premier empire indien quelques années plus tard, sous Chandragupta, dont le début de règne est fixé à peu près certainement en 313. L'intervalle entre Ajatashatru et le couronnement de Chandragupta est maintenant, si on place la date du Bouddha vers 400, la date de sa mort, c'est de 70 ans, alors qu'avant, c'était au minimum 170 ans. C'est-à-dire que tous les événements que nous racontent les Puranas doivent être compressés. Or, les Puranas, on peut montrer que leur chronologie est complètement fantastique. L'une des preuves que cette chronologie est complètement fantastique, c'est qu'il y a un certain nombre de savants indiens orthodoxes qui utilisent la chronologie des Puranas pour calculer les dates du Bouddha et qu'ils arrivent à 1300 avant notre ère. Les Puranas, chaque fois qu'on veut les utiliser et qu'on trouve, par exemple, dans les inscriptions, un nom qu'on veut regarder dans la liste des Puranas, ça ne donne rien, ça donne des choses. Et vous avez des oublis absolument extraordinaires, en particulier la presque totalité de la dynastie Maurya, qui est quand même une des grandes dynasties de l'Inde. Vous avez l'ensemble de la dynastie Kushan qui manque, et vous avez même l'ensemble de la dynastie Gupta qui manque. Mais ça ne fait rien, on continue à l'utiliser. Ce sont des chronologies et des généalogies refaites après coup. Excusez-moi, probablement à partir d'une base de vérité, mais qu'on ne peut plus utiliser comme ça. Et en particulier, ces Puranas nous disent qu'avant le dernier souverain avant Chandragupta, qui est connu par les historiens d'Alexandre, dénommé Xandrames, c'est-à-dire probablement Chandramas, un descendant de la dynastie lunaire, qu'avant lui, il y a eu une série de neuf souverains qu'on appelle les neuf Nanda, qui ont régné en tout 22 ans. Vous voyez, neuf, ça vous rappelle 2 fois 9 égale 18. Il est probablement évident que ces neuf Nanda n'ont jamais régné et que dans les 70 ans qui séparent Ajatashatru de Chandragupta, ce qui s'est passé, c'est que le royaume du Magadha, sous deux ou trois souverains, a continué à s'agrandir, et que lorsque Chandragupta a pris le pouvoir en 313 à la faveur de l'expédition d'Alexandre, il a pris possession de ce qui était déjà un empire couvrant quasiment tout le nord de l'Inde, puisque Xandramès, si Alexandre avait continué, aurait rencontré Alexandre aux environs de Delhi. Et on comprend mieux dans ces conditions la constitution, qui était relativement énigmatique, de l'empire Gupta, de l'empire Maurya. Deux choses. La première, c'est que si vous vous souvenez ce que je vous ai dit sur la chronologie des textes bouddhiques, cette chronologie des textes bouddhiques, des textes hindous, pardon, et brahmaniques et védiques, telle qu'elle est établie et acceptée en Occident, c'est un calcul a posteriori. Le Bouddha a connu les Upanishads, donc les Upanishads datent des environ 600 de notre ère, donc les Brahmanas datent des environ de 800 avant notre ère, donc le Rig Veda a été fixé aux environs de 1000 avant notre ère. Il est bien évident que ce calcul, qui était déjà bizarre, ne tient plus du tout si la vie du Bouddha est rajeunie d'un siècle, ou plus exactement, ou vieillie d'un siècle, comme vous voulez. Ça sera à revoir. Même si on tient encore, ça correspond à peu près à ce qu'on imagine être l'Inde ancienne, mais quand même le calcul est plus qu'hypothétique. La deuxième chose qui est inexpliquée, c'est l'énorme croissance démographique qui a eu lieu au 5e et au 4e siècle. Comment est-ce qu'on passe de villes informes à des villes très bien fortifiées et qui grossissent? Comment est-ce qu'on passe d'un simple poste de péage sur le Gange à Varanasi à la ville que vous voyez maintenant? Comment est-ce qu'on passe d'une capitale nouvellement fondée, Pataliputra, pardon, c'est Pataliputra qui est le poste de péage, excusez-moi, d'un poste de péage, Pataliputra, nouvellement fondé sur le Gange, à une ville de 700 000 habitants, un siècle plus tard? Il y a beaucoup de choses qui nous échappent et qui sont peut-être au moins aussi importantes que la vie du Bouddha, parce que c'est tout le destin de l'Inde qui s'est joué ensuite. Je vous remercie pour cette première série de cours. Vous avez droit à 5 minutes de...
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.